votre santé, votre avenir.
VOA Afrique, les infos, à Washington.
Bonjour, bienvenue à ce bulletin. Il est exactement 19h en temps universel et 23h sur l'île de La Réunion, qui est située à l'est de l'Afrique, du canal de Mozambique et de Madagascar, au micro Nanit Talani. Plus de 100 personnes, dont des femmes et des personnes âgées, ont été arrêtées par la police à la suite des manifestations dans l'est de l'Angola, annoncent ce dimanche les autorités locales. Le ministère de l'Intérieur de la province orientale de Lundasoul a déclaré qu'un groupe avait pénétré sur la voie publique, créant des obstacles pour les passants et causant des problèmes de sécurité. Les manifestants, parmi lesquels se trouvaient également des enfants, protestaient contre le gouvernement, la cherté de la vie, la corruption présumée de l'État et la prestation de services. Au Tchad, une cinquantaine de militants de l'opposition ont été arrêtés ce dimanche à N'Djamena, la capitale, selon la police, alors qu'ils préparaient le retour de leur leader, Succès Masra, en exil depuis la sanglante répression il y a un an d'une manifestation contre le maintien de la junte au pouvoir. Les forces de l'ordre disent avoir constaté des regroupements illégaux des militants du parti Les Transformateurs, visant à troubler l'ordre public à l'approche de l'anniversaire de l'insurrection du 20 octobre 2022. Le président en exil du parti Les Transformateurs, Succès Masra, a pour sa part assuré sur ex-Twitter, que ce sont plus de 200 de ses partisans qui ont été interpellés alors qu'ils rénovaient le siège du mouvement et collaient des affiches. La journaliste nigérienne Samira Sabou, qui n'a pas donné signe de vie depuis son interpellation le 30 septembre, se trouve dans les locaux de la police judiciaire, indique Reporters sans frontières et une source de son entourage. En détention secrète depuis 8 jours, sans inculpation, la journaliste Samira Sabou a enfin joint son avocat qui s'est rendu dans les locaux de la police judiciaire de Niamey, où son audition a débuté, explique RSF sur Twitter. Une source de l'entourage de la journaliste a confirmé qu'elle se trouvait bel et bien à la police judiciaire. Selon RSF, qui dénonce une procédure arbitraire et demande sa libération immédiate, Samira Sabou a été interpellée par des hommes en tenue civile le 30 septembre. L'administration du président Joe Biden va envoyer l'aide supplémentaire à Israël, allié historique de Washington, qui est frappé par des attaques du Hamas palestinien, selon une annonce faite ce dimanche par la Maison-Blanche. Le président a ordonné un soutien supplémentaire à Israël à la suite de l'assaut terroriste sans précédent du Hamas, a déclaré l'exécutif américain dans un bref communiqué.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a assuré à son homologue israélien Benjamin Netanyahu du soutien indéfectible du Royaume-Uni lors d'un entretien ce dimanche après-midi. « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour apporter notre aide. Le terrorisme ne l'emportera pas », a-t-il martelé. Le chef du gouvernement britannique a mis en avant le travail diplomatique que le Royaume-Uni accomplit pour s'assurer que le monde s'oppose d'une seule voix à ces attaques épouvantables. Il a aussi souligné son engagement à veiller à ce que la communauté juive du Royaume-Uni se sente en sécurité. Le Programme alimentaire mondial se dit profondément inquiet des difficultés d'accès aux produits alimentaires de base dans les zones affectées par le conflit entre Israël et le Hamas, notamment la bande de Gaza. Alors que le conflit s'intensifie, les civils, y compris les enfants et les familles vulnérables, font face à des difficultés croissantes pour accéder aux produits alimentaires de base. Les réseaux de distribution sont perturbés et la production alimentaire gravement affectée par les hostilités, souligne l'organisation onusienne. C'est ici que prend fin ce bulletin. Le prochain rendez-vous, c'est dans moins de 55 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à tous, chers auditeurs. Bienvenue sur VOA Afrique. Eric Manilakiza avec vous depuis le studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington, D.C. Et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Dialogue des religions. Michel Claire-Joseph assure la mise en onde. Ce soir, nous poursuivons notre discussion concernant l'impact des religions traditionnelles africaines sur les communautés locales et les diasporas. L'Afrique est un creuset de diversité culturelle et religieuse où les différentes croyances se croisent, s'influencent et coexistent depuis des générations. Dans cette édition, nous cherchons à comprendre comment les rituels des cérémonies jouent un rôle important dans les pratiques religieuses africaines, ainsi que l'importance des systèmes de valeurs qu'elles transmettent. Bienvenue encore une fois pour découvrir les richesses spirituelles et culturelles de l'Afrique. Je suis en ligne avec deux invités qui vont partager leurs connaissances et leurs perspectives sur le sujet. Mohamed Mbodj, professeur d'histoire à Manhattanville College à New York. Professeur Mbodj, bonsoir et bienvenue dans le Dialogue des religions.
Bonsoir.
Notre deuxième invité, le professeur Benoît Eliawaz Mbambi Kungua, président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas, basé à Ottawa, au Canada, auteur de la théologie négro-africaine contemporaine. Professeur Awazi, bonsoir.
Bonsoir Eric et bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs.
Professeur Mbodj, je commence avec vous. Comment les rituels et les cérémonies des religions traditionnelles africaines se sont-ils développés au fil du temps et quelles sont leurs influences mutuelles?
Les rituels sont basés sur la notion de balance, équilibre. Donc l'équilibre de l'individu, mais aussi l'équilibre de la société, de façon à permettre la continuité de ces sociétés, ce qui n'empêche pas une certaine ouverture pour accepter l'innovation, mais cette innovation doit être acceptée à l'échelle communautaire, à l'échelle collective, plutôt qu'à l'échelle individuelle. La deuxième chose pour les rituels, c'est ce qu'on appelle atteindre les divinités, atteindre les esprits, atteindre les ancêtres, de façon à les avoir de son côté, soit pour amener quelque chose de positif ou écarter quelque chose de négatif. Le rituel aussi aborde une sorte de conjugaison entre le visible et l'invisible, de façon à ce que le monde vu par les Africains n'est pas un monde où il y a un au-delà ailleurs, mais en fait l'au-delà, si on peut parler ainsi, est autour de nous. C'est que nous, tout simplement, nous ne les voyons pas, mais ces esprits, ces ancêtres, ces démons, ces dieux, eux nous voient et opèrent dans un monde parallèle. Et dernièrement, et à la fin, les résultats. Ces rituels ne sont pas simplement de purification ou quelque chose comme ça, mais en réalité, cherchent à obtenir des résultats. C'est-à-dire que les religions africaines, d'une manière générale, ne sont pas fatalistes et estiment que si on accomplit le rituel adéquat, à l'instant adéquat, devant l'audience adéquate, et etc., il y aura des résultats. Et ces résultats, c'est quelquefois d'inverser une tendance qui se manifestait. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de malchance, au fond, à la suite de ces rituels, cette malchance doit être arrêtée et même transformée en bonne chance, en quelque sorte. Donc, on escompte des résultats, on est optimiste pour renverser la tendance. Donc, il n'y a pas de fatalisme dans cette optique des rituels africains.
Professeur Benoît, quels sont certains des rituels et des cérémonies les plus emblématiques de ces religions traditionnelles et quelles significations et valeurs leur sont attribuées?
Ok, merci. Alors, je vais me limiter pour ne pas généraliser, je me limite à la province du Katanga au Congo, hein, dans une ethnie, les Bahemba, en commençant par dire que c'est tout à fait ça. Tout est lié à la vision du monde. Comme je l'ai déjà dit, hein, c'est la vie, l'énergie vitale doit s'accroître en faisant les bons rituels pour nous connecter à Dieu qui donne la vie par la médiation des ancêtres qui sont maintenant, qui ont basculé dans le monde invisible. Alors, par exemple, chez les Bahemba, il y a d'abord, et puis je devrais aussi dire que le pouvoir du chef, il est à la fois politique et religieux. C'est intriqué. Alors, le premier exemple, ils ont ce qu'ils appellent, donc, Dieu, ils l'appellent dans leur langue, les Vilienyambi, hein, Vilienyambi, chez les Bahemba, proche de le père un prince à travailler. Et il y a ce qu'on appelle le Kabezia, c'est comme une représentation de la force divine. Et ce Kabezia, c'est seul le chef qui peut le toucher. Pendant la cérémonie, seul le chef peut le toucher, parce que c'est ce Kabezia, c'est Dieu, représenté par là, qui lui donne son pouvoir comme chef. Et comme à la fois politique et religieux. Le deuxième exemple, c'est, alors, ça sera bientôt un livre que je vais préfacer. Exemple, quand il y a des naissances, par exemple, des naissances anormales, comme les enfants trisomiques, par exemple. Hein, dans la société traditionnelle, ces enfants étaient récupérés à la naissance, tués, dépecés et dispersés dans la nature, parce que c'était des personnes. On peut dire des revenants, des anormaux, bien, qui montrent qu'il y a eu quelque chose dans la société qui fait qu'ils sont venus. Mais, alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé dans le sens où il faut aller voir le guérisseur traditionnel qui fait le diagnostic, mais après, il faut aller voir le féticheur qui donne, hein, qui donne aussi les remèdes. Donc, là, je devais dire qu'à ce moment-là, le prêtre, le guérisseur, il est là pour conjurer le sort. C'est vrai, il n'y a pas de fatalité, mais quand il y a des anomalies, c'est un prêtre, un guérisseur qui agit au nom de Dieu. Un troisième exemple, je le prends aussi par rapport toujours à la force vitale, je prends l'exemple de la naissance. Par exemple, quand un enfant est né à la maternité, quand il revient à la maison, pendant quelques semaines, il n'a pas le droit de sortir à l'extérieur. Il faut une cérémonie pour sa sortie à l'extérieur et puis une cérémonie de purification de sa maman et pour sortir à l'extérieur. Et un tout dernier exemple, toujours par rapport à la guérison, c'est un cas qui s'est avéré, un inspecteur, un papa a été complètement malade et la médecine européenne qui est là depuis seulement la colonisation ne trouvait rien et il était vraiment mourant. Et pendant le rêve, hein, son père, hein, donc son père est venu dans le rêve pour lui dire « Envoie ton fils aîné au milieu du fleuve, prends l'eau du fleuve à Congolo et bois cela. Ce sont tes frères, ce sont tes collègues d'autres ethnies au travail qui t'ont fait ça. » Alors je résume, comme vous avez vu, le rituel c'est pour nous reconnecter à Dieu, pour équilibrer les forces de la vie contre les forces de la mort, parce qu'il faut revenir sur cette vision du monde où l'univers est peuplé des esprits bons et mauvais, Dieu qui représente le bien, et les esprits du mal. Donc il y a toujours un chaman, un prêtre traditionnel qui est opposé aussi, qu'on peut dire ça, au sorcier qui fait du mal. Mais entre les deux, c'est mieux aussi de parler du féticheur. C'est comme un voyant qui est capable de porter un diagnostic par rapport aux maladies dont les causes sont invisibles et qui échappent complètement aux dispositifs de biomédecine occidentale.
Professeur Mbodge, un exemple des rituels en Afrique de l'Ouest?
Oui, par exemple, il y a le rituel que j'ai étudié un tout petit peu qui s'appelle le Ndep, le retour en langue Wolof, qui veut simplement dire que lorsque la balance chez l'individu est rompu et qu'une maladie, disons, mentale se manifeste, une dépression, par exemple postpartum, il y a nécessité de faire revenir cet individu, d'où le terme de retour, à un équilibre normal, en agissant sur les esprits, écartant les mauvais esprits, amener les bons esprits. Chaque individu est doué de ce qu'on appelle un double spirituel qui l'accompagne dans sa vie. Ce double spirituel, la plupart du temps, est très positif et supporte l'individu et essaie de l'orienter, disons, vers le bien. Mais quelquefois, il y a des individus dont le double est un peu déviant ou en tout cas, ou même maléfique. Et à ce moment-là, il appartient à travers le rituel donc de faire en sorte que si le double est positif de le renforcer à travers des sacrifices, et si le double est maléfique ou déviant, de l'écarter et peut-être même de le remplacer, ou en tout cas de l'écarter de l'individu pour qu'il ne le remplace pas, plutôt pour qu'il ne l'influence pas dans le mauvais sens. Donc cette sorte de balance individuelle qu'on retrouve dans la cérémonie du Ndeb, accompagné de danse, de musique particulière, d'invocation à certaines catégories, à certains esprits, que ce soit des esprits ancêtres, des ancêtres individuels ou d'ancêtres communaux, de dieux et de déesses. Donc, toute cette panoplie de rituels est accomplie à travers le rituel du Ndeb pour rétablir l'équilibre de l'individu et par ricochet, l'équilibre de toute la société ambiante.
Alors, en quoi les rituels et les cérémonies de ces religions sont-ils pertinents pour la société moderne, Mohamed Modj?
Le Ndeb se pratique toujours, en fait, dans certains quartiers de Dakar, les quartiers traditionnels. Les quartiers traditionnels de Dakar sont maintenant au cœur de Dakar, dans le quartier des gratte-ciels, mais il n'est pas rare d'entendre le son du Ndeb de temps à autre lorsqu'un individu est atteint, donc mystiquement ou mentalement ou est déviant. Donc, ces pratiques se font. Il y a aussi ces pratiques qui quelquefois intègrent les nouveaux migrants et essaient d'éviter leurs esprits, leurs bons esprits, à incorporer le corps des esprits locaux. Là aussi, il y a des cérémonies qui s'assimilent au Ndeb, en particulier ce nouvel habitant de la ville qui est tombé malade mentalement. Il s'agit de réconcilier son esprit, son rap, comme on l'appelle en Wolof, avec les raps locaux, de façon à ce que cet individu puisse trouver cet équilibre. Maintenant, le Ndeb s'est transformé aussi en une sorte de catharsis collectif où des gens peuvent assister dans l'audience. Ce n'est jamais accompli dans le secret. C'est toujours accompli avec une audience, avec un public qui tape des mains, qui danse, etc. Et quelquefois des individus qui ne savaient pas que, en fait, ils étaient au bord du déséquilibre psychique. À ce moment-là, les raps en profitent un tout petit peu pour les faire entrer en catharsis. Et à ce moment-là, on peut immédiatement une sorte de médecine d'urgence, faire le rituel adéquat pour que cet individu dans le futur ne tombe pas donc dans ces crises mentales ou psychiques. Et troisièmement, maintenant, c'est devenu aussi une sorte d'attraction touristique. Parce que lors de la cérémonie du Ndeb, il y a des accoutrements particuliers qui répondent à être bienveillants aux esprits qu'on invoque. Donc il y a un certain appareillage, beaucoup d'outils mystiques que les gens arborent. D'une manière générale, le Ndeb à 90% est accompli par des femmes, parce que les bous sont des Wolofs qui sont des matrilinéaires, et donc dans ce système, les femmes dominent le système religieux. Et maintenant, c'est devenu une sorte aussi de spectacle touristique où les touristes au troisième ou au quatrième rang prennent des photos d'Africains qui se déguisent pour une heure, pour deux heures ou pour trois heures pour accomplir ces rites.
Professeur Awazi, partant de l'observation des dynamiques actuelles du dialogue interreligieux en Afrique, comment, selon vous, les rituels et les cérémonies contribuent-ils à favoriser la compréhension et la coexistence pacifique entre les différentes croyances?
Tout à fait. Et c'est que je disais que la vision du monde Africains. Alors, bien sûr, j'ai déjà dit ça, je rappelle rapidement. Selon, comme vous avez dit, la partie d'Afrique de l'Ouest avec le vaudou, d'autres religions, c'est un système polythéiste. Il y a plusieurs divinités. Tandis qu'en Afrique centrale, comme là où Tempest a travaillé, c'est un seul dieu, Mungu, Vilenyambi, et plusieurs esprits bons et mauvais, mais qui sont sous son autorité. J'insiste sur ce point, comme vous allez voir dans les grands centres urbains, aussi bien chez les chrétiens qui sont majoritaires en Afrique centrale, hein, comparativement à l'Afrique de l'Ouest, mais aussi même dans les villages. Parce que le problème que vous avez, que j'ai énoncé tout à l'heure, par exemple, quand il y a les enfants, hein, dont les causes de la maladie ne sont pas, échappent au dispositif biomédical, donc c'est l'autorité de la divinité dans ces religions monothéistes. Donc, le dialogue va se faire facilement avec le christianisme, par exemple, même avec l'islam, parce que il y a quand même un consensus au niveau théologique selon lequel les esprits bons et mauvais sont créés par Dieu, sont sous l'autorité de Dieu. Parce que s'il n'y a plus ce principe, il n'y aura plus de dialogue. C'est pourquoi vous avez vu une surenchère ritualiste dans le milieu urbain, dans les églises. Hein, partout, il y a une demande croissante de guérison, d'exorcisme, de purification, de pacification. Bien sûr, c'est la crise politico-économique qui est vécue par ces peuples au niveau métaphysique. Parce que leur vision du monde, le physique et le métaphysique sont interreliés, sont en interaction. Donc ça favorise le vivre ensemble dans le sens où, au niveau fort de l'idéologie, de la théologie, un seul Dieu, que ce soit les musulmans, les chrétiens ou les religions traditionnelles africaines, un seul Dieu est absolument puissant et tout puissant face à tous les esprits. Et ça permet de voir aujourd'hui toute cette prolifération des églises de réveil, prolifération des mouvements charismatiques dans l'église catholique et prolifération des demandes de guérison. Et ça permet aussi de vivre ensemble. Vous avez vu avec le Covid-19 l'échec cuisant des biomédecines. Parce que dans ces systèmes, le vivre ensemble, c'est aussi essayer de mettre en œuvre l'écologie, comme j'ai dit tout à l'heure, le chaman, le prêtre traditionnel, il va recourir, par rapport à ce qu'on va lui montrer dans sa vision, il va recourir aux racines, aux feuilles, aux mélanges, aux mixtures bien déterminées pour guérir les gens. Donc je dirais que pour résumer ce que je viens de dire, l'aggravation de la crise postcoloniale et celle de la mondialisation fait que les églises, je prends le cas de mon pays, le Congo, sont toujours achalandées, sont toujours remplies. Et quand vous voyez l'opération, le rituel principal, c'est celui de la guérison, parce que la vision du monde de ce peuple veut que la vie doit s'accroître par son énergie. Et l'énergie ne vient que de Dieu, la vie ne vient que de Dieu, et quand elle est affaiblie, menacée par les forces du mal, il faut que celle du bien les chasse. Aussi bien pour les musulmans que les chrétiens, que les religions traditionnelles africaines, ils sont d'accord sur la puissance, toute puissance de Dieu qui redonne la guérison pour les gens qui font pas seulement les rituels comme acte mécanique, mais qui le prient. Hein, vous allez voir que dans ces religions aussi, c'est un registre oral. Beaucoup de prêtres traditionnels n'ont pas comme une église avec des livres, des missels, mais ça se transmet oralement de génération en génération. Et c'est pourquoi les Africains qui se convertissent à l'islam ou au christianisme, les religions traditionnelles africaines deviennent comme leur matrice, leur prisme perceptif. C'est comme ceux qui disent en physique, je termine par ça, c'est comme un lieu de réfraction. C'est-à-dire tout ce qui vient de l'islam ou du christianisme doit passer par le prisme cathartique, thérapeutique, mais aussi métaphysique des religions traditionnelles africaines. C'est le phénomène de la physique optique, le phénomène par lequel un rayon change de direction en passant d'un milieu à un autre. Donc, le christianisme ou l'islam, une fois l'Afrique, ne peut plus être le même qu'en France, en Égypte ou en Arabie Saoudite. Parce qu'il y a
Merci Benoît. On va parler des valeurs, des systèmes des valeurs. Professeur Mbodge, quels sont les principaux systèmes de valeurs véhiculés par ces religions traditionnelles et comment sont-ils intégrés dans la vie quotidienne des communautés et dans la transmission des connaissances? En deux minutes.
La première valeur est ce qu'on peut appeler l'égalité, mais une égalité dans l'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a que chaque groupe et même chaque individu a des prérogatives qui font qu'il est plus important dans ce domaine-ci que dans ce domaine-là. Mais en fin de compte, chaque individu, chaque famille, chaque communauté dans la société, à la fin, se retrouve avec un pouvoir. Et ces pouvoirs-là, en se mettant ensemble, font le tout et donc créent l'équilibre de la société. Donc c'est une société qui cherche l'équilibre avant tout, à respecter l'ordre social transmis par les ancêtres, par les pratiques rituelles. La moralité, ce n'est pas une moralité individuelle, c'est-à-dire qu'on, certes, chaque individu est enseigné et endoctriné pour faire le bien, etc., etc. Mais en fin de compte, c'est la communauté qui bénéficie de cette moralité et c'est la communauté qui va sanctionner la moralité ou le manque de moralité à travers un système judiciaire qui est collectif. Et donc, par exemple, lorsqu'on punit un déviant, ce n'est jamais vraiment pas individuel, mais au fond, c'est un peu pour préserver le collectif. Et pour renforcer tout cela, il y a l'initiation, les différentes étapes de l'initiation depuis le jeune âge jusqu'à peut-être même à la mort où on passe de stade de responsabilité de connaissance de responsabilité lorsqu'on est jeune, puis on est adolescent, puis on est jeune adulte, puis on est un adulte avec femme et enfant, puis ensuite on est adulte avec chef de famille élargi, etc., etc. À chaque étape, il y aura dans la société traditionnelle ancienne une initiation pour non seulement enseigner les nouveaux pouvoirs, les nouveaux droits et privilèges à l'individu, mais en même temps aussi lui rappeler sa responsabilité par rapport à sa famille immédiate, mais aussi par rapport à la communauté. Et donc l'initiation était très importante, reste importante dans beaucoup de sociétés. Et maintenant, évidemment, surtout en Afrique de l'Ouest où beaucoup de disons l'islam et dans une moindre mesure la christianité a progressé, mais on peut parfaitement voir que ces valeurs, ces initiations passent maintenant sous des couleurs musulmanes ou chrétiennes, mais en réalité lorsqu'on creuse, lorsqu'on creuse un peu plus, on se rend compte que ce sont des systèmes d'initiation traditionnelle qui perdurent.
C'est une question que je voudrais poser à Benoît. En quoi justement les systèmes de valeurs de ces religions traditionnelles diffèrent-ils de ceux des religions plus répandues dans le monde? Il nous reste moins de deux minutes, Benoît.
Ok, merci Eric. Alors, comme j'ai déjà dit, je crois qu'il faut partir de la base. J'ai circonscrit au Katanga. Il y a d'abord une contiguïté. Il y a quand même une certaine un consensus au sens où c'est de religion monothéiste. Moi, je pense que ça, c'est la base qui fait qu'aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, le centre de gravité du christianisme a glissé vers le sud, l'Afrique et l'Amérique latine. Ça, vous êtes d'accord? C'est parce que il y a une inculturation de la foi chrétienne qui veut que les gens, les individus se reconnaissent comme créatures, donc limitées. Dépendance envers Dieu, dépendance envers la transcendance. Ça, c'est une première chose. Alors, si vous me demandez les différences, les religions comme le christianisme, dans lequel que je travaille depuis un certain temps...
Et rapidement, alors, il nous reste moins d'une minute.
Ce sont des religions institutionnalisées, bureaucratisées, avec une certaine hiérarchie, une certaine dogmatique théologique qui a été transmise, réfléchie, réécrite pendant 2000 ans. Vous voyez, pour le christianisme, par exemple. Donc, les églises africaines ont un chantier énorme pour non seulement gérer passivement, servilement un héritage théologique, mais pour être des sujets responsables dans la foi. Parce que la foi...
Merci Benoît. Il nous reste moins de quelques secondes avant de mettre fin à cette émission. Merci pour vos différentes contributions. Merci à Michel Joseph qui a assuré la mise en onde. Eric Manila qui a été avec vous au micro. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.